7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. Alors, Sandy Becky, vous me posiez la question pendant le flash, ça vous arrive de dire 7 milliards de voisines et de voisins? Mais vous avez raison, on pourrait inverser, puisque maintenant le Haut Conseil à l'égalité, c'est entre les femmes et les hommes, créé par vous, Najat Vallaud-Belkacem. Vous êtes la ministre des droits des femmes, la ministre de la ville, la ministre de la jeunesse et des sports, et vous êtes avec nous, notre invitée dans l'émission, à l'occasion de l'ouverture du sommet mondial des femmes qui se tient cette semaine à Paris. Sandy Becky, présidente du réseau de femmes Professional Women's Network, et vous venez de publier une étude sur les femmes et l'argent dont vous nous parliez avant le flash. Et Angélie Barral, vous êtes présidente de l'association Femmes et Développement Durable. On parlait juste avant le flash justement, et vous souhaitiez intervenir, Angélie Barral. Le problème des inégalités salariales, et pas seulement entre les femmes et les hommes, qui est remonté assez rapidement dans l'agenda politique. Est-ce que pour les entreprises, là aussi, il y a maintenant un agenda de visibilité, il y a un enjeu, il y a quelque chose à saisir en termes de développement durable, d'affichage politique pour les entreprises?
Là, vous avez dit le mot-clé, c'est visibilité. Aujourd'hui, on se pose la question, effectivement, de savoir la pertinence d'avoir des réseaux féminins. Sauf que lorsqu'on assiste à des conférences, des forums, des événements, dans mon cas, c'est plus souvent lié à la responsabilité sociétale des entreprises, donc où normalement, le sujet de l'inégalité est quand même au cœur des acteurs, des intervenants. Et que vous assistez à une conférence d'envergure nationale, il y a une session sur le leadership et vous avez 6 intervenants hommes, vous vous dites qu'il y a un problème.
C'est encore comme ça?
Oui, ça date de l'année dernière. Mais je pourrais vous en citer 2 ou 3 rien que sur 2013, début 2014.
Mais aujourd'hui, il y a quand même...
C'est l'association La Barbe qui sait très bien intervenir dans ces cas-là.
Féministe, ouais. Mais aujourd'hui, il y a tout de même un étau qui se resserre. Alors, vous parliez de la loi, Najat Vallaud-Belkacem, mais pas seulement. Les rémunérations des grands patrons aujourd'hui entrent en ligne de compte de plus en plus, insidieusement, certes, un petit pourcentage, mais la notation sociale des entreprises, l'aspect développement durable, donc la parité aussi, non?
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau des entreprises, mais comme Madame la ministre a rappelé, il n'y a que 30% de femmes qui entreprennent. Et il y a un gros problème au niveau de l'entrepreneuriat féminin, c'est que les femmes osent beaucoup moins demander des financements et elles les touchent moins facilement. Une étude britannique avait eu cette petite phrase que j'aime beaucoup, de dire que les femmes demandent exactement ce dont elles ont besoin et en obtiennent la moitié. Les hommes demandent 2 fois plus pour espérer obtenir ce dont ils ont besoin. Et ce sont des études qui ont été faites sur quelques années, sur justement le taux de financement de ces femmes entrepreneurs. Donc c'était vraiment de la donnée... relevé statistiquement.
Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez été, vous parliez de mentoring Sandy Becky tout à l'heure, vous avez été mentorée, donc coachée, épaulée, poussée par soit des hommes, soit par des femmes, mais qui vous ont donné ce surplus de confiance en vous-même, Sandy Becky.
Le mentoring, c'est quand même un outil formidable. Ça vous permet d'être en relation avec quelqu'un finalement qui a beaucoup plus d'expérience que vous, que ce soit un homme ou une femme. Donc moi, j'ai été mentorée aussi bien par des hommes que par des femmes et j'ai été beaucoup plus mentor de femmes en fait. Mais le grand avantage, c'est que quelque part, cette personne est passée avant vous, a eu à essuyer certains écueils, et que ce soit un homme ou une femme, hein, finalement, pour certaines situations, et vous met en garde, vous met en alerte. Donc c'est vrai que nous, au sein du réseau, ça c'est un programme qui marche très bien, qui est un pilier de l'activité du réseau, parce qu'on met en binôme des femmes un peu moins expérimentées, qui ont 5-7 ans d'expérience, avec des femmes quand même très seniors dans des postes de direction.
Et mais vous-même, vous avez choisi de créer votre entreprise parce qu'en fait, vous plafonniez dans un grand groupe d'informatique.
C'était le moyen
de... Vous étiez directrice du développement durable.
C'est vrai que l'entrepreneuriat est une façon de dépasser ce plafond de verre. Et je reviens sur ce que disait Madame la Ministre, c'est que en fait, vous entrez dans l'entreprise, vous avez un bon niveau de diplôme, vous ne voyez pas encore ces écarts de rémunération, et 15 ans après, ça vous éclate en pleine figure, je me permets de vous le dire. Et là, en fait, c'est peut-être même un peu trop tard.
Najat Vallaud-Belkacem.
Bien sûr qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui pensent que le féminisme s'est dépassé, que les combats ont été menés et que tout est acquis et qu'elles sont à égalité. Mais c'est notre responsabilité de pouvoir public ou de grandes associations comme les vôtres de mettre en lumière le fait que les inégalités, elles sont là. Elles s'en rendront compte après-demain quand elles seront à l'âge de la retraite et qu'elles comprendront que leur pension de retraite est grosso modo, là encore, de 30% inférieure à celle des hommes. C'est notre responsabilité de pouvoir public et de ministre des droits des femmes en particulier que de mettre en lumière à chaque fois les inégalités partout où elles sont pour faire prendre conscience et donc faire des gens eux-mêmes des acteurs du combat. Quand ce sont les acteurs eux-mêmes qui se saisissent du sujet, eh bien, on se dit qu'on a gagné quelque chose. Et ça peut être les hommes aussi.
Et c'est avec ce raisonnement-là que vous avez lancé cet apprentissage de l'égalité filles-garçons dès l'école primaire. Je vais raviver un mauvais souvenir, mais parce que c'est un mauvais souvenir politiquement parlant, les ABCD de l'égalité. Est-ce que vous attendiez, bien au-delà de la sphère de l'école, à un débat aussi explosif, aussi politisé sur un tel sujet?
Je vais vous répondre. Vous avez demandé tout à l'heure qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui, les unes les autres, on était aussi sensibilisés sur ces questions d'inégalité professionnelle. Moi, je suis venue à la question des inégalités professionnelles, de la lutte contre le plafond de verre, etc., par le biais d'une question qui est encore plus tragique que toutes celles-là, qui est la question des violences faites aux femmes. C'est le sujet, il se trouve que c'est comme ça, auquel je suis le plus sensible, qui m'indispose le plus et contre lequel je veux le plus lutter. Et en travaillant sur cette question des violences faites aux femmes, j'ai vite vu que on parlait pas simplement de faits divers, qu'il y avait un véritable fait social dans les violences faites aux femmes.
On va redonner le chiffre en passant.
121 femmes mortes sous les coups de leurs conjoints sur la dernière année. Et encore, on parle que des mortes, d'une certaine façon. Il y a toutes les autres qui vivent pendant des années l'enfer des violences conjugales. Et donc, j'ai bien compris qu'il y a des ressorts à la violence conjugale qui puisent dans les inégalités entre les hommes et les femmes. Et le fait de considérer l'autre comme n'étant pas vraiment une égale par rapport à soi, parce que toute la société est faite de cette hiérarchie homme-femme, mais non, elles n'ont pas vraiment les mêmes ambitions, elles n'ont pas vraiment besoin de désirer les choses, c'est pas leur mode de fonctionner.
Donc sous-entendu, il faut commencer à l'école pour déconstruire les stéréotypes et dire aux petits garçons.
Et au fond, quelles que soient les inégalités dont on parle, elles ont ces mêmes ressorts de hiérarchisation du monde. Et cette hiérarchisation du monde, elle s'apprend dès le plus jeune âge par les images qu'on voit à la télévision, les médias. Je vous parle même pas d'Internet. Ce constat qui était déjà dramatique il y a 20 ans n'a fait que se dégrader. C'est-à-dire que les images qui étaient problématiques qu'on pouvait voir à la télé,
les injures sexistes, etc., sur les réseaux sociaux.
Le bout de la banalisation des comportements de harcèlement.
Ouais, mais alors, pourquoi les ABCD de l'égalité, ça a été un tel fiasco, politiquement, voire une gaffe? Pourquoi même les enseignants eux-mêmes n'ont pas bien compris finalement cette nécessité-là?
Il faut faire quand même la distinction entre ce que sont les ABCD de l'égalité. C'est quoi les ABCD de l'égalité? C'est le fait de former des enseignants à identifier dans leur pratique de tous les jours ce qui peut cantonner des filles et des garçons dans des rôles très distincts et qui va les amener à s'auto-censurer, à ne pas s'imaginer dans tel métier, etc. Donc en gros, on forme les
professeurs. Tu peux devenir plombière et garçon, tu peux devenir enseignant.
Exactement. On forme les enseignants à ne plus reproduire les schémas inconscient qu'ils le produisaient, dans lesquels on enferme chaque sexe dans un rôle prédéfini et inégalitaire. Ça, c'est la première chose dans les ABCD. La deuxième chose, c'est que les enseignants sont invités à parler de ces questions d'égalité filles-garçons avec leurs élèves. Donc c'est ça, les ABCD de l'égalité, c'est on va profiter, je sais pas moi, d'un enseignement où on parle de l'histoire de France pour rappeler aux filles et aux garçons que il fut une époque où les filles n'avaient pas le droit de travailler, par exemple. Pourquoi ça a évolué? Pourquoi est-ce que dans certains pays c'est encore comme ça? Et au fond, c'est quoi le sens même de l'égalité?
Oui, mais même les enseignants ont dit on n'avait pas besoin de ce problème-là. On a plein de problèmes d'inégalité sociale. On a des garçons qui savent pas lire à l'entrée en sixième. Est-ce qu'on a besoin de se rajouter ça?
Précisément, le fait que les garçons soient assez piètres en lecture à l'entrée de la sixième, c'est un des effets de l'inégalité de traitement et d'attente réservée aux filles et aux garçons. C'est-à-dire que dans les salles de classe, en gros, beaucoup d'enseignants, de façon inconsciente, partent du principe que les filles, il faut vraiment qu'elles soient bonnes en lecture. Les garçons, c'est pas très grave, ils s'en sortiront autrement, ils feront plutôt des maths. Et c'est problématique aussi pour les petits garçons. Donc vous voyez que c'est pas si évident, que c'était pas déjà résolu dans les programmes généraux. C'est pas vrai.
Sandy Becky, vous souhaitez intervenir?
Finalement, 30 ans, 35 ans après, vous retrouvez exactement ce même schéma en entreprise où une femme, pour être promue, doit en faire deux fois plus qu'un homme. Il y a aussi bien un message internalisé par les femmes qu'elles doivent en faire deux fois plus, et il y a une attente de l'entreprise qu'elles doivent fournir deux fois plus de travail pour montrer leurs compétences et leurs valeurs.
Et aujourd'hui, en fait, tout un cheminement de pensée sur la connotation sexuelle des différents secteurs d'activité. Et donc justement aujourd'hui, exactement dans le sens où vous disiez, Madame la Ministre, c'est des chantiers écoles qui se mettent en place, notamment on pense tout de suite secteur du bâtiment par exemple. Je citerai une association dans ce sens que j'ai pu rencontrer du côté des femmes et qui travaille avec des entreprises spécifiquement à l'adresse de femmes pour changer leur vision des choses. Et c'est notamment des femmes qui ont été victimes de violences conjugales et qui ont donc besoin d'inverser l'image pratiquement d'elles-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que se renforcer dans leur volonté de réussir et de parvenir par elles-mêmes est le meilleur moyen, puisqu'en fait, on s'aperçoit que souvent, il y a eu beaucoup d'aide de réinsertion des femmes où on retombe encore dans le cliché. Mmh. C'est la santé, c'est secrétariat, mmh, c'est ce genre de choses.
Oui, mais pourquoi ça, c'est devenu un sujet politique, Najat Vallaud-Belkacem ?
Ça n'a pas à être un sujet politique, vous avez raison, au sens partisan du terme. C'est devenu un sujet politique au sens partisan et politicien du terme, lorsque, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut distinguer la réalité et ce qui s'est passé autour des ABCD.
Les hommes politiques se sont étripés sur des livres d'enfants,
oui,
quand
voilà,
même.
Oui, voilà, lorsque une formation politique que je ne citerai pas ici, mais vous l'aurez reconnu, Jean-François Copé en l'occurrence, en particulier, a décidé de polémiquer sur ce sujet. Et c'est terrible, parce qu'il a pris en otage les enseignants eux-mêmes. Mais enfin, j'aimerais tellement que les observateurs se rendent compte, peut-être
les
qu'il faudra
enseignants
un peu
disaient,
de recul.
On voudrait de l'argent pour faire progresser c'est nos élèves, non, ne nous occupons pas
non,
de ça.
Soyons clairs, je vais vous dire. Les enseignants, depuis des années, ont conscience de cette question des inégalités filles-garçons. Ils tâtonnent pour essayer de trouver la bonne façon d'aborder le sujet dans leur classe. Ils n'ont pas les outils pédagogiques nécessaires pour le faire. Et ils étaient heureux. D'ailleurs, vous allez voir, il va y avoir une enquête qui va sortir sur, dans les établissements où les ABCD ont été appliqués, le degré de satisfaction et des enseignants et des parents et des élèves. Et vous allez être surpris des résultats. C'est évidemment quasiment l'unanimité. Ils étaient heureux, les enseignants, de voir arriver des outils pédagogiques simples leur permettant d'aborder ces questions et de faire progresser les choses. Et à côté de cela, on a eu droit à la fois à la rumeur, une rumeur extrêmement pernicieuse et grave, hein, portée par, les journées de retrait de l'école, Madame Belgoul, etc., qui prétendait quand même auprès des parents, par l'envoi de SMS, qu'on allait apprendre à leurs enfants de 4 ans à se masturber dans les salles de classe. Voyez le rapport entre ce que je vous ai décrit tout à l'heure et cette rumeur. Et un parti politique, donc l'UMP, qui a donné consistance à cette rumeur en faisant exprès de s'émouvoir de ce que nous étions en train de faire. Donc, oui, il y a eu un problème. Cette rumeur, cette polémique monstre a été un problème. Elle a inquiété les parents. Et moi, je ne veux pas inquiéter les parents. Je veux juste leur dire que c'est dans l'intérêt de leurs enfants, filles et garçons, qu'on leur apprenne l'égalité et qu'on n'apprend rien d'autre que l'égalité dans ces programmes.
Mais est-ce que les parents ne sont pas surtout préoccupés par la réussite de leurs enfants, être sûr qu'ils trouveront du travail, plutôt qu'on leur sème des doutes dans leur esprit sur l'identité sexuelle de leurs enfants, par exemple? Qu'un garçon, qu'est-ce qu'une fille? Ça a ravivé des grandes interrogations universelles.
Mais malheureusement, parce que certains ont polémiqué, mais personne n'a parlé de remettre en cause l'identité sexuelle des filles et des garçons. C'est ça qui est terrible.
En tout cas, on va revenir aux vraies préoccupations, pas seulement des Français, mais de beaucoup de gens dans le monde. Le chômage, on va parler du chômage, notamment pour les femmes dans les banlieues, dans les quartiers sensibles. Et puis également du plan de lutte contre la traite des êtres humains. Vous restez avec nous, Najat Vallaud-Belkacem.
With love.
Lan, chanteuse franco-vietnamienne chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. On a beaucoup dit que c'était un ministère fourre-tout, ce qui est sûr, c'est que vous avez beaucoup de travail. Sandy Becky, vous êtes coprésidente du réseau de femmes Professional Women's Network et Angélie Barral, vous êtes présidente de l'association Femmes et Développement Durable et vous êtes réunies dans ce studio à l'occasion du sommet mondial des femmes qui s'ouvre aujourd'hui à Paris et cela jusqu'à samedi, un sommet international. On a beaucoup parlé des femmes cadres, des inégalités salariales, des femmes très diplômées. Najat Vallaud-Belkacem, je voudrais aussi qu'on parle des femmes dans les quartiers sensibles. Vous êtes aujourd'hui, depuis le mois d'avril dernier, ministre de la ville. Deux études conjointes viennent de sortir et finalement annoncent des chiffres. On pensait depuis un moment que les femmes étaient moins victimes du chômage que les hommes, parce que plus diplômées en moyenne. Eh bien non, dans des quartiers sensibles, dans les banlieues, les femmes sont largement plus au chômage que les hommes. Qu'est-ce qui se passe ?
En fait, elles cèdent à la fatalité et à l'idée qu'elles ne trouveront de toute façon pas d'emploi. Et il y a un repli sur le foyer. Et il y a une espèce de modèle qui est en train de se mettre en place dans les quartiers, dans les zones urbaines sensibles, où en gros, on fait des pas en arrière, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, puisqu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, ben, on va plutôt laisser l'homme du foyer prendre un travail. Et elles croient que c'est volontaire. Mais en même temps, c'est le résultat du zéro confiance en la possibilité pour le système de leur trouver une place dans la vie active. Et c'est extrêmement préoccupant et problématique. Donc moi, je pense que d'abord, on a évidemment besoin de développer les dispositifs d'emploi en période de crise, quand l'emploi n'est pas spontanément au rendez-vous. Il faut vraiment, moi je suis pour les emplois aidés par exemple, je comprends même pas que les gens soient encore en train de les contester, parce que c'est très important de mettre les gens en emploi pour que ils aient quelque chose à valoriser à la fin de l'expérience, qu'ils puissent avoir un revenu à la fin du mois, etc. Donc les emplois aidés, il faut les soutenir et on les oriente en particulier vers les quartiers prioritaires et en veillant à ce que les femmes en profitent autant que les hommes. Vraiment, la création d'entreprises et notamment la création d'entreprises au féminin doit être toujours plus soutenue. C'est ce que nous faisons.
Quand vous dites alors que les femmes en profitent autant que les hommes, vous n'envisagez pas une politique spécifique pour les femmes dans les quartiers sensibles, dans les banlieues ?
Alors, j'en envisage bel et bien une, mais qui concerne un certain type de femmes. Celles auxquelles je pense, ce sont les femmes d'un certain âge, en gros 50 ans, qui sont pas encore à l'âge de la retraite, qui ont élevé leurs enfants et qui, en fait, jouent un rôle fondamental, notamment dans les quartiers en question, parce qu'elles tiennent beaucoup de choses, mais qui n'ont pas d'emploi. Pour elles, je voudrais développer l'emploi associatif. Et c'est pour ça qu'en ce moment même, parce que j'ai la chance d'être en charge de la vie associative aussi, je suis en train de mener à bien un vrai choc de simplification pour les associations, pour leur permettre d'embaucher plus facilement, d'être rassurées, rassérénées sur les financements qui sont les leurs, pour leur permettre d'ouvrir davantage l'emploi.
Il y aura suffisamment d'argent pour ça ?
C'est une bataille budgétaire qui se mène en ce moment même, figurez-vous. Mais pour moi, c'est une priorité, d'abord parce que je crois beaucoup en la vie associative, en l'éducation populaire. Je pense que c'est une vraie réponse à l'abstention, à l'indifférence démocratique que traverse notre société. C'est vraiment la vie associative, l'engagement, le fait de se rendre compte qu'on a le pouvoir d'agir.
Une des petites pistes aussi pour reconquérir un électorat populaire pour le PS, tellement perdu dans les banlieues ?
Je ne raisonne pas du tout comme ça. Moi, aujourd'hui, je me demande surtout comment persuader à nouveau les gens qui se sentent relégués au point de ne même plus croire en rien, plus croire en la politique, ne plus aller voter, etc. Comment les persuader que leur voix a un sens, qu'ils sont eux-mêmes utiles à la société, que après tout... Vous savez, les solutions, elles tombent pas forcément de l'extérieur. C'est pour ça que je crois tellement à la création d'entreprises. Pour ceux qui ne trouvent pas d'emploi, je veux dire, il faut développer la création d'activités soi-même.
Angélie Barral, alors justement, et Sandy Becky, vous travaillez sur ces questions-là. Vous avez le sentiment que les femmes payent le prix fort de la crise là, depuis 2008
hein ? C'est la population la plus fragile. Elles ont moins de financement. Et puis, si on parle des banlieues, il peut y avoir aussi des pressions, appelons un chat, il y a des pressions culturelles qui ne sont pas forcément dans ce sens. Des pressions aussi éducatives. Moins on a de diplômes, moins on a confiance en soi et plus on sait qu'il y aura d'embûches qu'il faudra traverser. Donc, forcément, les femmes ne sont pas dans la situation la plus favorable.
Sandy Becky.
Alors nous, au sein de notre réseau, même si on s'adresse à des femmes cadres et cadres supérieurs, on a aussi pu constater que il y avait une proportion plus importante de femmes que l'on dit en transition, hein, parce que c'est aussi le terme
qu'on utilise.
Donc, c'est elles sont en attente d'un autre emploi quand elles ont perdu l'emploi précédent.
C'est le mot pudique pour dire qu'on est dans la mouise, quoi.
Pour dire qu'on n'a plus de travail. Et donc, c'est vrai que même nous, sur une population cadre et cadre supérieur, on a pu constater une augmentation. Donc, et cette augmentation, elle est aussi une conséquence de la crise. Et comme disait Madame la Ministre, en fait, quand vous avez tous ces plans sociaux, vous avez des femmes qui pensent que c'est une opportunité et qui se portent volontaires. Et si elles n'ont pas un projet derrière, eh bien, elles se retrouvent, qu'elles soient cadres ou pas cadres, avec un niveau d'études important ou pas, eh bien, elles se retrouvent sans emploi, sans projet. Et finalement, oui, vers... un rôle qui sera plus cantonné à la maison et donc c'est pour ça aussi qu'un réseau est important.
Quoi, juste au fond que la femme, malheureusement, a peut-être un petit côté un peu plus sacrifice.
Parce qu'il y a les enfants à la maison aussi, hein. Celles qui ont le plus de mal à retourner dans l'emploi, c'est parce qu'il y a des enfants.
Il y a les enfants, il y a le côté aussi peut-être attachement aux valeurs familiales qui est effectivement très ancré.
Najat Vallaud-Belkacem.
Par ailleurs, ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est le nombre de familles monoparentales. Et des femmes seules, à 90% les familles monoparentales sont constituées de mères isolées avec enfants.
Et comme il n'y a pas assez de places de crèche, c'est encore plus dur pour les femmes.
Oui.
Même pour un entretien.
De manière générale, c'est dur parce qu'elles doivent gérer et la vie active et les enfants. Et que c'est très intéressant de constater que les femmes, donc les mères isolées, sont plus en emploi que les femmes au sein des couples, alors que intuitivement on pourrait se dire que comme elles doivent garder les enfants, etc. Mais en fait, elles ont plus besoin de subvenir à leurs besoins. Donc, elles fournissent des efforts énormes, mais de fait, elles sont dans la précarité. Moi, je trouve que le vrai sujet pour nos sociétés modernes aujourd'hui, c'est cette question des mères isolées. Vous parliez des quartiers, il y en a énormément. C'est pour ça que, par exemple, j'ai voulu travailler sur la question des pensions alimentaires impayées. C'est pas pour mettre le couteau sous la gorge des débiteurs défaillants, c'est simplement qu'à un moment donné, ça plonge dans la précarité ces femmes et leurs enfants que de ne pas percevoir leur pension alimentaire à la fin du mois et que ça n'est pas à elles, me semblait-il, de galérer en permanence d'action en justice en action en justice pour récupérer leur dû. Donc, la loi change cela et va permettre désormais que quand une pension alimentaire n'est pas payée, ce soit la caisse d'allocation familiale qui se substitue, qui verse le montant à la mère et qui ensuite a la charge, la caisse d'allocation familiale, d'aller récupérer le montant auprès du débiteur. C'est formidable cet intermédiaire parce que ça va quand même défaire un certain nombre de tensions nerveuses très importantes.
Et remettre la pression sur les pères qui ne payent pas les pensions avant qu'on se quitte, Najat Vallaud-Belkacem. Bon, là, on a l'ouverture de ce sommet mondial des femmes, mais c'est un sommet qui, après tout, tout de même très, très business, important sur le leadership des femmes dans l'entreprise, dans l'économie. Vous vous souvenez de ce grand sommet, de cette grande conférence mondiale sur les femmes organisée par l'ONU il y a presque 20 ans à Pékin. En 2015, on sera 20 ans après. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse le bilan et qu'on continue d'avancer 20 ans après Pékin sur les droits des femmes ?
D'abord, c'est dingue d'en arriver là. En effet, des associations, des ONG très féministes et pro-égalité se mettent, pour certaines d'entre elles, à dire finalement, ne modernisons pas ce qu'on a obtenu à Pékin, parce que si on réouvre les discussions, on risque d'avoir moins bien que Pékin il y a 20 ans. Ça en dit long sur la façon dont les lobbyistes conservateurs de tout poil, et vraiment ça désigne des pays très différents. Hein,
vous avez le sentiment, dans le fond, que le contexte géopolitique économique dans le monde est pas très favorable aux femmes?
Ben, moi, j'ai le sentiment, de manière générale, que les crises économiques sont des mauvais moments à passer pour les femmes. Parce que il y a toujours, du coup, une tentation de revenir en arrière. Il y a le côté passéiste, nostalgique, c'était mieux avant. Et vous savez, avant, rappelez-vous, c'était le moment où les femmes demandaient pas à avoir les mêmes droits que les hommes, où il y avait une cellule familiale qui se construisait avec papa qui travaille et maman qui reste à la maison. Et donc, les crises économiques, c'est toujours l'occasion pour les régressistes de faire valoir leurs arguments qui, malheureusement, parfois sont entendus plus largement que les simples régressistes.
Et vous, qu'en pensez-vous, Angélie Barral ? On est dans une époque favorable aux femmes ou pas, finalement ?
Joker.
Sandy Becky, alors.
Alors moi, je vais terminer peut-être sur une note plus positive, où je vais dire que bon, là, c'est dans ce contexte de crise, on voit émerger des nouvelles formes de leadership et je trouve que là, les femmes auront peut-être un rôle plus important à jouer parce qu'on est en train de s'orienter vers une acceptation des valeurs comme l'intuition, l'émotion, l'acceptation de la vulnérabilité qui peuvent être manifestées par des hommes, mais des valeurs dites féminines. Et je me dis, on est en train de reconnaître ces valeurs dans un leadership du 21e siècle. Et je me dis, là, peut-être qu'on va trouver plus d'égalité homme-femme sur ces postes de leadership. Et d'ailleurs, nous, on organise une grande journée la semaine prochaine là-dessus, sur ce thème, parce qu'on y voit un début de solution.
Et juste bien, en oui, termes d'environnement, on voit quand même que les plus grandes figures de leadership viennent du Sud. Peut-être que les droits des femmes vont paradoxalement apprendre de ces femmes issues de pays émergents et qui, au bout du compte, se sont peut-être tellement battues qu'elles ont des leçons à nous donner.
Le Sud nous enseigne beaucoup de choses, on en sait quelque chose sur RFI. Merci à toutes les trois, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Angélie Barral, présidente de l'association Femmes et Développement Durable, et Sandy Becky, coprésidente du réseau de Femmes Professional Women's Network, qui vient de publier donc une étude sur les femmes et l'argent. Merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Romain Dubrac, et pour toutes vos réactions. Bien sûr, vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, comme chaque vendredi, l'émission est consacrée à des questions éducation. Dans quelques instants, le journal sur RFI.